aujourd'hui à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver en ce lundi 2 décembre 2019 dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous avons développés ce soir. En République démocratique du Congo, un manifestant tué par balle à Beni lors d'une nouvelle protestation contre les casques bleus de l'ONU. En France, hommage national aux 13 soldats morts il y a une semaine au Mali. Le président Emmanuel Macron leur remet la Légion d'honneur à titre posthume. Le président américain Donald Trump en route vers Londres pour le sommet des 70 ans de l'OTAN, confronté à des incertitudes et aux divisions internes. Et en magazine, gros plan sur le Cyber Monday, le lundi des promotions, qui se dirige vers un record pour les ventes en ligne aux États-Unis. Et ne manquez pas non plus vos rubriques économiques et sportives à venir dans environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés à Beni lors d'une nouvelle journée de protestation contre ce qui est qualifié comme l'inaction des casques bleus face au massacre des civils. Claire Morin-Gibourg pour les détails.
Le corps d'un jeune homme a été conduit par des dizaines de manifestants vers l'hôpital de Beni, où sa mort par balle a été confirmée. Selon Germain Dalico, un des organisateurs de la manif, le jeune homme aurait été tué à bout portant par un policier. Le chef de la police de Beni, Jean-Félix Kazigoufou, a déclaré que le bilan n'est pas encore disponible. Toute la matinée, la police et l'armée ont procédé à des tirs de sommation pour tenter de disperser des dizaines de jeunes qui scandaient des slogans hostiles à la MONUSCO. Au moins 8 manifestants ont été tués depuis le 23 novembre dans des rassemblements hostiles aux casques bleus à Beni et à Butembo. Les casques bleus et les autorités sont accusés d'inaction face aux nombreux massacres de civils dans la région. En visite en RDC depuis samedi, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a estimé que ces attaques avaient été planifiées, organisées et financées. Il a ajouté qu'il fallait renforcer le partenariat entre l'ONU et la RDC face aux groupes armés.
Le chef de l'État français s'est incliné aujourd'hui devant le sacrifice des 13 soldats tués dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération au Mali la semaine dernière. C'était lors d'un hommage national solennel dans la cour des Invalides à Paris devant quelques 2500 personnes, dont les familles des victimes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta assistait à la cérémonie. Pour Emmanuel Macron, ses militaires sont morts pour la France et les peuples du Sahel. Je vous propose un extrait de son discours.
13 destins français, 13 visages, 13 vies données, 13 hommes que la fraternité des combats et des entraînements dans les sommets enneigés comme dans les cieux étoilés avait rapprochés et que la mort à jamais a unis. 13 noms qui seront inscrits dès demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Comme les noms de l'engagement de nos armées pour notre défense, comme les noms de la lutte de tout un pays contre ses ennemis, comme les noms de la guerre de toute une nation contre le terrorisme. Comme chef des armées, j'ai décidé de vous promouvoir ce jour au grade supérieur. Au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
À Madagascar, le camp du président André Radzouel a pris le contrôle de la capitale lors des élections municipales du 27 novembre dernier. Antananarive était aux mains de l'opposition depuis 2015. Le candidat du pouvoir, Naina Andrine Sinohine, a obtenu près de 49% des suffrages, devançant Rina Randriamana Sinor. Au Soudan du Sud, 5 employés de l'organisation humanitaire Relief International ont été agressés et blessés au cours du week-end lors d'une attaque menée par des hommes armés contre leurs locaux dans la région du Nil supérieur. Le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU dans le pays a condamné l'attaque commise, d'après lui, dans la ville de Bounj par des hommes en uniforme. Alain Noudehou appelle à ce que les auteurs soient traduits en justice immédiatement. Au moins 115 travailleurs humanitaires, principalement principalement des Sud-Soudanais, ont été tués dans le pays depuis que ce pays a sombré dans la guerre civile en décembre 2013. Au moins 26 morts en Tunisie et 17 au Maroc. Le Maghreb est endeuillé par deux accidents de bus, tous deux survenus hier. En Tunisie, l'autocar qui transportait des touristes locaux âgés de 20 à 30 ans est sorti de la route et a chuté dans un ravin dans la région montagneuse d'Aïn Snoussi. Au Maroc, près de Taza dans le nord, un autocar s'est retourné pour une raison encore inconnue selon les autorités locales. 17 passagers ont donc été tués et on dénombre 36 blessés. Très attendu, le procès pour corruption de deux anciens premiers ministres algériens aux côtés d'autres ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile a été ajourné dès son ouverture aujourd'hui à Alger en raison d'une foule nombreuse et d'une salle trop petite. Il a été renvoyé au 4 décembre. Ce procès, le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption déclenchés après la démission en avril dernier d'Abdelaziz Bouteflika. L'ambassadeur américain en Zambie a dénoncé ce lundi les relations qu'il qualifie de pourries entre Washington et Lusaka après s'être récemment indigné de la condamnation à 15 ans de prison de deux homosexuels. Arrêtons de jouer la comédie des relations chaleureuses et cordiales, a déclaré l'ambassadeur américain Daniel Futi à Lusaka. L'actuel gouvernement zambien veut que les diplomates étrangers soient dociles, avec un portefeuille grand ouvert et la bouche fermée, dit-il, tout en rappelant que les États-Unis accordaient 500 millions de dollars d'aide annuelle à la Zambie. Le diplomate regrette également de n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer le ministre zambien des Affaires étrangères, Joe Malanji.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture aujourd'hui à Madrid de la COP25, une rencontre de deux semaines sur le réchauffement climatique. Les exhortations à agir pour sauver l'humanité se sont multipliées, mais le sommet risque de décevoir les attentes. Le point avec Driss Fall.
Un seul mot d'ordre, time for action, où il est temps d'agir. Le message a été martelé dès l'ouverture de cette 25e conférence de l'ONU sur le climat qui va durer deux semaines à Madrid. Le monde se trouve à un tournant et doit choisir entre l'espoir en agissant maintenant ou la capitulation, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant les représentants de quelques 200 pays signataire de l'accord de Paris, dont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce qui manque, c'est la volonté politique, a déploré M. Guterres, pointant du doigt, sans les nommer, les pays les plus pollueurs. Les États-Unis qui sont retirés de l'accord de Paris, la Chine, le Japon, le Canada et l'Australie ne sont pas représentés au plus haut niveau. Seuls 68 pays se sont engagés à revoir à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de carbone en 2020 avant la COP26 à Glasgow au Royaume-Uni. Les pays du Sud, moins pollueurs, ont encore réclamé de l'aide pour faire face au désastre.
Le président américain Donald Trump est à Londres pour les 70 ans de l'OTAN. Washington va encore demander à ses 28 partenaires de respecter leur promesse de mieux contribuer au budget de l'Alliance. Les précisions avec Irénée Herman-Ongbo.
Selon les nouveaux chiffres publiés vendredi, les alliés européens et le Canada vont ajouter 130 milliards de dollars au budget de défense d'ici à la fin de 2020. L'Allemagne va représenter environ 20% de cette augmentation. Quelques 400 milliards de dollars supplémentaires devront s'ajouter d'ici à 2024. L'Allemagne, principale cible de la critique de Trump, a déclaré que ses dépenses actuelles répondent aux exigences de l'OTAN et prévoit de dépenser 2% du PNB d'ici à 2031. Le président Trump a toujours demandé aux alliés de mettre davantage la main à la poche au lieu de laisser Washington payer la plus grande partie du budget de l'OTAN. Jusque-là, les États-Unis ont été le plus gros contributeur à hauteur de 22%. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi que les États-Unis verseront désormais moins d'argent, l'Allemagne aidant à combler le déficit. Selon lui, Washington et Berlin paieraient environ 16% du budget total à venir. Les autres alliés européens vont aussi payer plus, mais la France a refusé.
Au moins 208 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement de contestation en Iran. C'est ce qu'a indiqué l'ONG Amnesty International aujourd'hui. Déclenchée mi-novembre dernier par l'annonce d'une augmentation du prix de l'essence, les manifestations violentes par endroits se sont rapidement étendues à au moins 40 villes et localités. Les autorités iraniennes, selon qui ce mouvement est le résultat d'un complot ourdi à l'étranger, avaient déjà réagi à un précédent bilan d'Amnesty, le jugeant exagéré. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Les dépenses d'importation de céréales de l'Algérie ont diminué de 12% pour s'établir à 2,1 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de l'année en cours, contre 2,4 milliards de dollars l'an dernier. L'Algérie, l'un des plus grands importateurs de céréales au monde, tente de réduire ses dépenses d'achat de céréales et d'autres biens après une baisse des recettes énergétiques. Le gouvernement a décidé de réduire ses importations de blé à 4 millions de tonnes par mois, contre 6,2 millions actuellement. Le Nigeria recevra un prêt de 210 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour moderniser son réseau de transport et de distribution d'électricité. Le projet améliorera également les exportations d'énergie et l'intégration du système électrique régional au pôle énergétique d'Afrique de l'Ouest, en particulier par le biais des interconnexions du Niger et du Bénin. Pour terminer cette Minute Éco, South African Airways est en pourparlers avec des prêteurs pour obtenir des fonds nécessaires à sa transition opérationnelle et structurelle. La compagnie est à court d'argent pour assurer sa viabilité financière et opérationnelle. La société ne pourra plus continuer dans sa forme actuelle. Le mois dernier, elle a été frappée par une grève paralysante qui l'a poussée au bord de l'effondrement. Par ailleurs, deux grands assureurs sud-africains de voyage ont cessé de protéger les billets de la South African Airways contre l'insolvabilité.
Et maintenant, pour notre habituel tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
On connaîtra le Ballon d'Or France Football 2019 ce soir.
Oui, le successeur du croate du Real Madrid, Luka Modric, lauréat en 2018, sera désigné tout à l'heure au théâtre du Châtelet à Paris. 30 joueurs sont en lice, dont les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, entre autres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont sur la liste, de même que le meilleur joueur UEFA de l'année, Virgil van Dijk de Liverpool, l'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba est co-maître de cérémonie de cette édition 2019. Chez les dames, l'américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019, survolée par la Team USA, fait figure de grande favorite. L'américaine de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le soulier d'or de la meilleure buteuse de la Coupe du Monde. Elle a aussi été désignée meilleure joueuse du tournoi.
Ligue des champions sur le continent ce week-end.
Le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, s'est imposé 2-0 sur le terrain du Raja de Casablanca pour partager la tête du groupe D avec la JS Kabylie, qui a battu 1-0 l'AS Vita Club de Kinshasa. Dans la poule C, Mamelodi Sundowns a lui aussi pris un envol en s'imposant à domicile 3-0 face aux Angolais du Petro Atlético de Luanda. L'autre match du groupe a vu l'USM Alger et le Wydad de Casablanca se neutraliser 1-1.
Dans le groupe A, le TP Mazembe a remporté le choc de cette première journée.
Un match qui pèse 10 ligues de champions, les Congolais l'ont emporté 3-0 face aux Zamalek du Caire. Le club de Lubumbashi est un solide leader du groupe devant les Angolais du 1er de Agosto et les Zambiens de Zesco United qui ont fait un match nul de 1 but partout. Enfin, dans le groupe B, victoire des Soudanais d'Al Hilal 2-1 devant les Zimbabwéens de Platinum FC et des Tunisiens de l'Étoile du Sahel 1-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly du Caire.
Première journée également en Coupe CAF.
Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane ont malmené les novices béninois d'Esaü 3-0. Berkane prend ainsi la tête du groupe C devant les Congolais du DC Mutoma Pembe et les Zambiens de Zanaco qui se sont neutralisés 1-1. Pas de vainqueur sur les deux matchs dans la poule B. 0-0 entre les Sud-Africains de Bitvest et les Guinéens de Oroya. 1-1 entre les Libyens d'Al Nassra et les Maliens du Djoliba, avec un petit goût amer pour les Maliens.
On avait nos objectifs à atteindre, amener 3 points à la maison. Prendre un pénalty par manque de communication qui nous a créé un nul. On ne va pas baisser la tête, la compétition continue. On demande à toute la population malienne et tous les supporters du Djoliba de continuer toujours à croire en nous. Et...
David Ekwa, attaquant du Djoliba AC au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a profité d'une tournée à l'intérieur du pays pour s'adresser à ses adversaires de façon indirecte. Lors d'un rassemblement à Katioula, dans le Nord, il a laissé entendre qu'il pourrait bien être candidat pour un troisième mandat, en dépit de la Constitution qui limite les mandats à 2. Aïcha Diarra y était pour VOA Afrique.
Katioula était l'étape finale de cette tournée gouvernementale de 4 jours. C'est au stade Ouattara Thomas Dakin qu'a eu lieu ce meeting final où Alassane Ouattara a rassuré les populations quant à la sécurité des élections à venir.
L'élection présidentielle de 2020 se passera bien. Soyez sereins, pas de violence, parce que la sécurité est de retour. L'armée est une et républicaine. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010.
Toujours selon lui, l'une des raisons qui créerait un désordre serait l'exclusion de certains candidats. Pour la première fois, il lève une partie du voile sur sa candidature aux élections de 2020, annonçant qu'il sera candidat si ceux de sa génération le sont également.
Soyez rassurés, mon intention c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais, je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat.
Réaction de quelques personnes après ce discours. Kwasi Kounan, Touré Kadi et Nda André.
Vraiment, ce monsieur-là, vraiment, même si on n'aime pas, mais avec ce qu'il a fait, là, vraiment, il travaille. Donc, on veut qu'il continue.
Vraiment, le discours du président était bien. Nous sommes très contents. Parce que depuis 2015, on l'attendait, on ne le voyait pas. Donc, on avait soif de faim. Donc, vraiment, le message qu'il nous a dit là, ça nous a vraiment plu. C'est un travailleur.
Pour moi, sincèrement, s'il a vraiment l'intention de laisser le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir sans condition. Mais cette condition qu'il pose là, pour moi, ça veut dire déjà qu'il ne veut pas laisser.
En 2020, Alassane Ouattara sera au terme de son second mandat. Et ses adversaires n'attendent qu'une seule chose, qu'il se retire de la scène politique. Aïcha Diarra de retour de Katioula pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Au Cameroun, de nombreux retraités éprouvent d'énormes difficultés à toucher leur pension. Même les anciens fonctionnaires et agents de l'État sont concernés par ces lenteurs. La semaine dernière, le ministère des Finances, qui gère la solde des personnes retraitées, s'est penché sur la question, nous rapporte depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
La principale plainte des retraités se rapporte au délai du traitement de leur dossier. Cette période de longue attente est décriée par ces personnes de troisième âge.
J'ai quand même eu l'arrêté de mise en retraite. Je suis allée en retraite en décembre 2011. Jusqu'à ce jour, il y a deux avancements qui manquent depuis.
Ce n'est que depuis quelques mois que j'ai commencé à toucher. Je suis allée à la retraite en 2016.
D'après les statistiques du ministère des Finances, des personnes attendent parfois plus de 4 ans entre la date de retraite et le moment de paiement définitif de leur droit à pension. Une attente encore plus longue pour les veuves et pour ceux qui concernent les pensions à la réversion. Autre obstacle majeur, l'obtention de l'acte de mise à la retraite, une pièce incontournable avant toute prise en solde par l'État. Mais peu de retraités l'obtiennent à temps, explique une sexagénaire.
Sortir la note de mise en retraite, ça a dû prendre presque 2 ans. Le dossier était dans un bureau. Il fallait que je connaisse une femme au ministère pour qu'elle puisse marcher derrière. Et chaque semaine, j'y passais.
Retraités et sans argent, certains se rabattent au village et vivent dans des conditions de précarité.
Je suis obligé d'aller d'abord prêter 2 000 pour venir même rendre peut-être 2 500. Parfois, on nous manque même 100 francs en main comme ça. Je suis déjà même découragé. J'ai fait plus de 3 ans avant d'entrer en possession de ma retraite complètement.
Il faut plus de célérité dans la chaîne de production des actes de concession de droits à la pension. Sous l'égide du ministère des Finances, le responsable en charge des ressources humaines et des pensions se sont concertés à Yaoundé pour résoudre ce dysfonctionnement. Cyril Edou Allo, directeur général du budget.
Nous sommes en pleine réforme de maîtrise du fichier de la solde et des pensions. Cette réforme implique les bases de données de traitement, l'allègement des procédures. Le gouvernement va décider de l'ensemble des réformes à mener pour réduire les délais de traitement.
La déconcentration de la gestion de la solde des pensions est l'une des réformes du gouvernement en vue de la modernisation de la gestion budgétaire. Les pouvoirs publics espèrent par là accélérer le traitement des actes de pension. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour ce soir sur la journée mondiale de lutte contre le sida, marquée hier, dimanche 1er décembre, pour parler de la Guinée. Dans un récent rapport sur la situation de la maladie dans ce pays, l'ONG Médecins Sans Frontières indique que le combat contre le VIH en Guinée accuse un grand retard par rapport au reste du continent. De Conakry, le reportage de Zakaria Camara.
Toutes les 2 heures, un malade meurt du VIH en Guinée. Une situation qui fait évoluer le nombre de nouvelles infections. Il passe de 6400 par an à 7200 à partir de cette année. Pour ce père de famille, il est temps de tirer la sonnette d'alarme.
Les gens négligent maintenant le dépistage, puisque pour eux, le sida est vaincu, alors qu'il est loin d'être vaincu. Donc c'est un constat amer, puisque sur le plan des statistiques internationales, l'Afrique reste toujours derrière, avec le plus grand pourcentage ou le plus grand taux.
120 000 personnes sont infectées par le VIH en Guinée. Seulement 40% sont sous traitement. Le pays est aussi confronté à des difficultés dans la mise à disposition de soutien psychosocial et d'intrants sanitaires. L'année dernière, certains malades ont souffert de la rupture des ARV. Kadiatou Bodjebaldi, président de l'association des personnes infectées.
Un patient qui quittait l'intérieur venir s'approvisionner à Conakry est tout le temps parcouru et bien il ne trouve pas le produit. Et on te dit que tu es malade. Le produit qui peut te permettre de survivre, tu ne peux pas gagner. Ça, c'est une catastrophe, tu peux dire.
En octobre, Médecins Sans Frontières a alerté sur la baisse des financements en matière de lutte contre le VIH. Dans son rapport, MSF invite les gouvernants et le Fonds mondial à s'investir davantage. Christine Bimancha, coordinateur de projet VIH, MSF Guinée.
Maintenir le financement voudrait dire maintenir la situation actuelle. Pour avoir une réponse efficace, une augmentation des allocations des fonds et des financements pour la Guinée et tous les autres pays à faible prévalence devraient augmenter.
Un peu plus de la moitié de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. La couverture de charges virales est de 35% pour tous les pays et 19% des enfants nés d'une mère séropositive naissent infectés. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous nous excusons pour la mauvaise qualité du son dans le reportage précédent. Passons à un autre magazine maintenant. Pour beaucoup d'Américains, l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An est synonyme d'emplettes et de plus en plus d'achats en ligne. Le Cyber Monday, le lundi après Thanksgiving, les ventes en ligne offrent des rabais substantiels. De nombreux acheteurs combinent les achats en ligne et les visites dans les magasins pour dénicher les meilleures offres. Les tendances cette année avec Lionel Gaïma.
Ici aux États-Unis, les courses pendant la saison de fête peuvent ressembler à un sport olympique. Aller de magasin à magasin, comparer les offres. Et de plus en plus, faire les courses en ligne, particulièrement à ce cyber lundi. Le premier lundi après Thanksgiving, les détaillants en ligne font des offres exceptionnelles. Il vient juste après le vendredi noir ou Black Friday, où les Américains prennent l'assaut des magasins à cause des offres de réduction énormes, parfois jusqu'à moitié prix. Mark Lewis est PDG de Natalico.
Je pense que ce cyber lundi, nous verrons de plus en plus de ventes. De plus en plus de gens vont migrer en quelque sorte vers les achats en ligne plutôt que de se rendre dans les magasins.
Près de 20% de ventes de la saison devraient se faire en ligne. Pourtant, pour beaucoup d'Américains, acheter en ligne peut être fastidieux. Il n'y a pas de l'expérience physique du magasin où on peut toucher l'objet ou parler en personne à un vendeur. Nessie est un client.
I like to still go to store.
J'aime quand même aller dans les magasins, en particulier à Macy's et Nordstrom, ce grand magasin.
C'est bien de pouvoir parler aux vendeurs en personne et essayer différents produits, ce qui est agréable.
Peut-être même se balader avec ses copines ou ses enfants.
Zach est un autre client qui adore marchander.
Je voudrais un bon prix, je ne vais pas mentir à ce sujet, mais en général, je préfère les achats réels aux achats en ligne.
Pour de nombreux acheteurs, trouver le bon cadeau, c'est souvent le chercher en ligne ou aller l'acheter au magasin. Courtney DeMello a opté pour les commandes sur Internet.
J'ai l'impression que le Cyber Monday m'éloigne de toute cette folie, mais je fais toujours une très bonne affaire.
Certains magasins comme IKEA, le vendeur de meubles utilise la réalité virtuelle pour que les clients puissent voir à quoi ressemble une chaise dans leur salon. Des robots préprogrammés, vendeurs en ligne, répondent aux questions des clients.
Ils ne sont pas humains, mais ont été capables d'imiter l'humain si bien et de fournir autant d'informations qu'ils donnent aux clients une très bonne expérience.
Pour de nombreux acheteurs, entrer dans l'esprit des fêtes est un défi. Ensuite, pour un ordinateur ou un téléphone portable, un simple clic ou achat avec un robot suffiront pour que le Père Noël dépose le bon cadeau à votre porte.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Joseph Morissin. À la console, on avait notre ami Nick Ivanov. C'était Jacques Aristide au micro. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt.
l'actualité, le monde aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.